Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grand invité de Religion du monde ce dimanche, le cardinal Dieudonné Dzapalanga, archevêque de Bangui de passage à Paris, et qui vient de publier avec la journaliste Laurence Desjoyeaux aux éditions Mediapol « Je suis venu vous apporter la paix », livre préfacé par Andrea Riccardi, un des fondateurs de la communauté de Sant'Egidio, bien connu pour ses actions en faveur de la paix. Éminence, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans ce studio. Bonjour Laurence Desjoyeaux.
Bonjour.
Quelques repères avant de commencer notre échange. Vous êtes né en 1967 à 750 km de Bangui, dans une famille pauvre, d'agriculteurs, avec 10 enfants. Nzapa veut dire Dieu en sango, et c'était peut-être là le signe de votre destin. Vous entrez à votre demande en 6e au petit séminaire de Bangassou. Vous serez ordonné prêtre en France en 1998 et vous avez 31 ans et vous entrez ainsi dans la famille des religieux spiritains. 10 années en France, de 1994 à 2004, comme étudiant, puis aumônier à Marseille auprès de jeunes en difficulté. En 2005, c'est l'année du grand retour en Centrafrique, vous êtes élu supérieur des spiritains. En 2012, le pape vous nomme archevêque de Bangui et vous entrez, si je puis dire, de plein pied dans votre destin national. Les rebelles de la Séléka, des mercenaires venus du Tchad et du Soudan voisin, majoritairement musulmans, pénètrent au nord du pays. C'est le début d'une longue guerre intérieure qui, dès les premières heures, bascule dans un conflit interreligieux. Et c'est dans ce chaos qu'avec un imam et un pasteur, vous allez à vos risques et périls prêcher la paix et déconfessionnaliser un conflit, cela pour éviter un génocide. En 2016, le pape, un an après sa visite historique à Bangui en novembre 2015, vous élève au rang de cardinal. L'histoire ne s'arrête pas là, la vôtre, ni celle de votre pays, toujours occupé un ou deux tiers par des groupes rebelles. C'est sur votre parcours et ce travail de médiateur, le fil conducteur de votre livre, écrit avec Laurence Desjoyeaux, sur lesquels nous allons revenir. Mais déjà, une question concernant la situation actuelle. On continue de mourir en Centrafrique quand on est un civil et qu'on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, que l'on s'est réfugié dans une mosquée ou dans une église. Éminence.
La situation des civils, ce sont les situations qui nous préoccupent. Quand on est pasteur, quand on est prêtre, normalement, on a fait une alliance avec un peuple. Et un peuple qui souffre, le Père souffre. Et nous souffrons aussi avec une population qui sont sur les sites, qui sont dans la brousse, ou qui sont malmenés, ou qui connaissent les violations des droits humains. Et nous sommes proches de cette population. Voilà pourquoi nous devons défendre cette population. Être la voix des sans-voix pour dire non, cet être humain est créé à l'image de Dieu et vous n'avez pas le droit de l'humilier, vous n'avez pas le droit de le traîner par terre. Cet être humain doit être respecté.
Cardinal Dieudonné Dzapalanga, quand vous quittez Bangui, est-ce que vous êtes inquiet?
Quand je quitte Bangui, eh bien, je remets le pays entre les mains de Dieu. Et je sais bien que les hommes, malgré leurs limites, ils savent aussi regarder où se trouve l'essentiel, c'est-à-dire sauver des vies humaines. Moi, je ne peux pas dire que je suis indispensable. Il y a des frères, des sœurs. Avant moi, ce pays a existé. Après moi, ce pays existera. Bien au contraire, nous travaillons tous. Nous arrivons quand même un élément de maillon. Et nous devons contribuer à drainer beaucoup des hommes, des femmes, pour qu'ils soient convaincus que nous devons marcher vers la paix. Marcher vers la paix, ce n'est pas un travail solitaire, c'est un travail d'ensemble. Voilà pourquoi si je pars, je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui continuent cette lutte-là, qui continuent ce combat-là, et continuent à dire, demain, nous pourrons vivre ensemble. Et ceux qui connaissent le pays, en 2013 et maintenant, il n'y a plus photo. Qui aurait cru que les gens pouvaient rentrer et sortir allègrement, à partir du kilomètre 5, ça veut dire là où on appelle l'enclave, où il y avait plus de musulmans. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité. Petit à petit, nous faisons d'un petit pas, progressivement, parce que nous nous adressons à des cœurs. Et les cœurs, parfois, sont endurcis. Ces cœurs qui sont endurcis, nous devons les toucher par des paroles. Nous sommes les gens de la religion de la parole. Une parole qui libère, une parole qui sauve, une parole qui relève, une parole qui invite à changer de comportement, une parole qui invite à changer de regard, une parole qui invite à regarder la même direction. C'est ce que nous devons le faire. Oui, quand je quitte Bangui pour partir, Les hommes, des femmes sont sur place, continuent cette mission.
Laurence Desjoyeaux, je me tourne vers vous. Pourquoi avez-vous eu ce désir d'écrire un livre avec le cardinal Zappalenga?
Alors déjà, c'est parce que c'était la proposition de l'éditeur, mais j'ai accepté justement parce que je pensais qu'il y avait un vrai intérêt à faire connaître la figure du cardinal en France, parce que moi, j'ai été très impressionnée par le courage du cardinal face à des situations de troubles et de dangers. À la fois le courage physique d'aller au devant d'un danger, et puis le courage de dire la vérité. Voilà, donc ça m'a beaucoup marqué. Je trouve que c'est un trait qui est plus si commun aujourd'hui. Et ensuite, c'était aussi la volonté de mettre en lumière comment concrètement on fait pour obtenir la paix. Voilà, la paix, on en parle beaucoup, il y a des grands colloques, il y a des organisations internationales, tout ça. C'est très bien, mais là, il y avait l'exemple concrètement, comment on peut, par un processus de médiation qui a été mené par le cardinal, mais aussi par l'imam et par le pasteur qui font partie de la plateforme des confessions religieuses de Centrafrique, comment concrètement on peut amener des gens qui se haïssent ou qui pensent se haïr à la même table et obtenir un accord sur des choses concrètes. Ça va la circulation d'une route ou l'occupation d'un territoire. Voilà, je trouvais ça vraiment intéressant de montrer qu'aujourd'hui, concrètement, il y avait des hommes qui arrivaient à faire la paix. Et puis, c'est ce que le cardinal Andrea Riccardi dit dans la préface. En fait, c'était aussi la volonté de montrer un témoin, parce que il dit, voilà, si quelqu'un est là pour témoigner que la paix est la meilleure solution, voilà, la paix peut advenir si quelqu'un est là pour en témoigner. Et donc, c'est ça que moi, j'ai voulu mettre en lumière.
Alors, sur ce travail de médiation, bien sûr, nous allons y revenir plus tard. Mais déjà, moi, j'aimerais commencer par votre parcours, Éminence. Vous êtes né, je le rappelais, dans une famille pauvre, mais manifestement, vous aviez ce que l'on appelle un père, hein, c'est-à-dire un homme qui a de l'autorité. Il ne savait ni lire ni écrire, il était pauvre, vos parents étaient pauvres, mais il avait de l'autorité. Vous avez eu un père.
Oui, j'ai eu un père qui savait ce qu'il voulait, alors qu'il savait ni lire ni écrire. C'est lui qui nous réveillait très tôt, non seulement pour prier, mais surtout pour étudier. Il ne savait même pas si on étudiait. Mais il nous demandait d'étudier. Il dit, demain, vous devez être autonome, être des hommes, le prendre par main. Moi, aujourd'hui, je vais au champ. Moi, aujourd'hui, je trime. J'aimerais que votre situation change. Il le disait très petit déjà. Et non seulement il le disait, il voudrait qu'il y ait une rigueur, une manière de faire, une manière de vivre. Il inscrivait même des règles en disant, quand vous revenez d'école, vous devez aider à puiser de l'eau. Une fois que vous avez fini, vous devez commencer à étudier vos leçons. Et quand vous n'êtes pas à votre place, il vous rappelait à l'ordre. Et ça nous a aidé, ça m'a marqué pour avoir aussi des rigueurs dans ma vie, des organisations, pour fixer des caps et, pour ne pas dire, avoir une vision et avancer. Lui, il savait drainer la famille. Et moi, j'ai vu comment nous tous, on suivait ce père-là. Et comment est-ce que il nous menait? Donc, quelque part, il a mis aussi en moi ce gène-là où je dis, quand on est responsable, on doit savoir drainer, on doit savoir entraîner, on doit savoir aussi aider les gens à pouvoir avancer dans la même direction. Donc, j'ai eu cette aubaine, pour ne pas dire une chance. Chez les chrétiens, on appelle ça une grâce de pouvoir recevoir de ce père un héritage.
Alors, autre héritage, celui du père Léon. Parlez-nous du père Léon.
Le père Léon, c'est un père spiritain néerlandais. Les spiritains sont ceux qui ont été fondés en 1703 par Claude Poulard de Place, un Français de Bretagne, pour s'occuper des pauvres écoliers, ceux qui n'avaient rien. Il avait mis tout son héritage pour tous ses amis. Et ce père Léon a quitté son pays, le Pays-Bas. Il est venu en République centrafricaine. Plus précisément, dans ma région Bangassou, qui est à 750 kilomètres. Dans cette ville, alors qu'on avait des coopérants européens qui ne pouvaient pas venir dans les quartiers, les bas-fonds, des pauvres et autres, ce père venait dans notre quartier. Il venait, non seulement il venait, mais il jouait avec nous. Il partageait notre repas, il priait avec les parents. J'étais séduit, impressionné, en demandant, qui est ce monsieur, ce blanc, qui ose venir vers nous? Que fait-il ici? On me dit, ça, c'est un prêtre. Ah bon? Un prêtre? Moi, j'avais 10, 11 ans. J'ai dit, mais moi, je veux faire comme lui. Aller aussi vers les enfants perdus et jouer avec eux, manger et tout. C'était un rêve d'enfant, de gosse. Eh bien, ce rêve est devenu réalité. Au fait, Père Léon, blanc, venant de Pays-Bas, en Centrafrique, où il y a des Noirs, donnait un enfant spirituel qui s'appelle Dieudonné Nzapalainga Noir, qui a aussi fait ce cheminement pour aller au pays des Blancs, travailler avec les enfants pauvres à Marseille, voyez, avec les Blancs. Un Noir qui travaille maintenant avec les Blancs, c'est juste un retour des choses. Ce père a déposé le germe d'un cadeau, de l'engagement pour les démunis, les défavorisés, les enfants en difficulté, dans mon cœur, qui m'a poussé à aller jusqu'à Marseille réaliser mon rêve.
Alors, on reste au petit garçon que vous étiez à ce moment-là, au temps du Père Léon. Vous avez une dizaine d'années, vous allez entrer au petit séminaire et suivre du coup votre père, parce qu'il faut préciser que votre mère était protestante. Hein ?
Oui.
Mais finalement, donc, vous allez choisir le catholicisme. Donc, vous entrez au petit séminaire. Vous avez une dizaine d'années. Et alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, c'était 30 euros. Alors, je ne sais pas si c'était par an. C'était 30 euros et c'était une montagne pour votre famille. Votre père va devoir quitter son métier d'agriculteur pour devenir menuisier et subvenir à vos études.
En effet, mes parents, vous avez dit que nous sommes 10 nombreux dans une famille et les parents étant paysans, ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins de tout le monde. Parfois, on a un seul repas parce qu'on n'a pas assez de moyens pour pouvoir nourrir tout le monde, avoir les 3 repas. Et nous, on vivait dans cette situation. Quand j'ai eu ce rêve, que j'ai réussi le concours où je demandais à aller au séminaire, les parents, papa m'avait dit, ça c'est la pension de 4 enfants. Lui, il n'a pas les moyens, puisqu'il est simple paysan. C'est aléatoire. Quand on plante et qu'on a les maïs, on a les arachides, on n'est pas sûr d'avoir assez d'argent pour pouvoir nourrir tout le monde. C'est ce qu'on va recevoir. Ça va être plus, ça peut être moins. Donc, c'est aléatoire. Voilà pourquoi, par prudence, il a dit, il peut pas. Il était honnête. J'ai commencé à pleurer. Je suis allé voir le père Léon en lui disant, certes, je t'ai vu, séduit par ton engagement. Je voulais devenir comme toi, mais papa me dit qu'il n'a pas les moyens pour payer. Et le père Léon de dit, je vais inviter ton papa, je vais voir s'il peut travailler comme aide-menuisier. Et ainsi, il aura un revenu stable. Comme ça, les 30 euros, il pourra les payer. En fait, on allait prélever pour payer. Vous voyez, pour moi, c'était aussi beaucoup voir que la pension qu'on va payer, c'est pour 4 enfants. Ça veut dire que je représente beaucoup. Et très vite, je vais dire que je vais essayer de me prendre en charge. Voilà pourquoi je vais demander, par exemple, à des religions, en disant, moi, je vais quand même balayer, je vais nettoyer, je vais faire quelque chose dans la maison, ne fût-ce que vous me donnez quelque chose pour payer, contribuer à ma scolarité, parce que les parents n'ont pas les moyens. Je trouve que c'était beaucoup sur leurs épaules. Hein. Et on m'a dit quelque chose, la religieuse. Quand on a moins de 17 ans, on ne peut pas travailler. C'est interdit par la loi. Par contre, si tu vas à l'inspection de travail et que tu obtiens l'autorisation, nous, on peut te favoriser, on peut accepter. Eh bien, j'y suis allé. J'ai vu l'inspecteur de travail, j'ai demandé. Eh bien, l'inspecteur de travail était séduit et après, il m'a fait un papier, je suis venu montrer à la religieuse. C'est ainsi que j'ai commencé à nettoyer la rue, à balayer, à couper les herbes et tout, contribuer à ma propre éducation aussi, soulager les parents.
Et ce qui explique aujourd'hui, vous êtes très sensible, évidemment, à la question de l'éducation, de la construction d'écoles, notamment.
Je suis très sensible parce que je sais que j'étais pauvre, perdu. Personne ne pouvait oser parier sur moi. Eh bien, l'homme de Dieu, quelque part, a parié sur moi. Et moi aussi, je peux renvoyer l'ascenseur. Tous ces enfants dans les villages pauvres, il y a des ingénieurs, il y a des génies, il y a des grands penseurs. Il faut éveiller cette intelligence-là. Et ça passe aussi par l'éducation, ça passe par un lieu, par une école. Nous avons commencé à construire des écoles. Aujourd'hui, autour de Bangui, il y a 10 écoles construites. Je voudrais en construire une cinquantaine. Donner la chance aux enfants qu'ils aillent à l'école. Demain, ils vont dire, il y a quelqu'un qui nous a aidés. Et dans les villages perdus, où il n'y a personne qui s'occupe d'eux, moi, je veux les toucher. Vous dites, oui, quelque part, il y a un Dieu qui existe. Et moi, je crois en ce Dieu et je viens en son nom. Me voici avec vous. Je mobilise les énergies, les moyens financiers pour construire, pour payer, parce que les parents ne peuvent pas payer la scolarité dans ces endroits-là. Je suis proche d'eux pour dire que si Dieu n'existait pas, on n'allait pas avoir cette éducation et cette formation. Pour moi, c'est clair, les enfants pauvres ont aussi accès à l'éducation pour devenir des responsables tôt ou tard dans une société.
Cardinal Dieudonné Zapalenga, quelques mots sur vos années à Marseille. Elles ont été dures. Vous étiez aumônier. Oui, je vous vois effectivement en faire une sorte de grimace. Vous étiez aumônier, donc, dans un centre où étaient des enfants appartenant aux orphelins apprentis d'Auteuil. Et là, ça a été particulièrement difficile. Vous l'écrivez dans le livre avec Laurence Desjoyeaux.
Ce sont des années difficiles parce que vous voyez, je viens d'une culture où on a quand même un minimum de respect pour l'aîné ou pour l'adulte. Vous arrivez, vous avez là en face de vous des jeunes en difficulté, en problèmes affectifs, problèmes sociaux, plusieurs problèmes et placés aussi peut-être par des juges qui sont là ou venant d'autres cultures. Eh bien, c'est le cocktail molotov parfois pour l'explosion de frustration, de colère ou bien encore de l'indiscipline. Et moi, j'arrive dans ce milieu, on va dire, fosse au lion, au milieu des loups. Eh bien, quand j'arrivais comme jeune professeur de culture religieuse, fier d'avoir étudié, fier d'être ordonné. Et je viens, je prends ma crèche, je me mets au tableau pour écrire. Aujourd'hui, on commence les religions monothéistes. Au moment où j'écris, eh bien, il y a des jeunes qui font du bruit. Au moment où j'écris, on simule des bagarres. Au moment où j'écris, on met le feu. Eh bien, je passais 50 minutes à faire la discipline, parfois que 5 minutes de cours. Quand tu sors, tu es vidé. Et tu te poses la question, est-ce que je me suis trompé de chemin? Non! Pour avoir cette réponse, eh bien, pour moi, en tant que religieux, c'est en allant dans l'église, en priant, en me mettant devant ce que les chrétiens appellent Saint-Sacrement, que je puise mes forces, et après je revenais. Les éducateurs, les formateurs ne comprenaient pas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en dépression? Pourquoi il ne trouve pas une semaine aussi? Eh bien, parce que moi j'avais un secret. Le secret, c'est Jésus-Christ que j'allais contempler. J'allais voir qui me donnait la force. Un jour, la petite histoire, on avait des jeunes qui avaient décidé de faire craquer les formateurs. Comme ça, ils ont une heure de libre à chaque semaine, chaque jour. Eh bien, ils m'ont repéré. On dit, on va aller avec maintenant le Père Dieudonné. Ils ont commencé chaque jour en classe. Toujours des difficultés, des cailloux qui arrivent derrière, des feux, des simulations, des bagarres et autres. À la fin de la semaine, le leader, parce que dans tout groupe, il y a toujours un leader, il vient pour me demander, mon père, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez craquer? Je lui ai dit, est-ce que tu vois Dieu? Il me dit non. Je lui réponds, moi j'ai mis ma confiance en Dieu que tu ne vois pas. Si tu veux me faire craquer, va d'abord faire craquer Dieu et tu viendras me faire craquer. Il m'a regardé longtemps, il m'a tapé dans la main. Eh bien, l'alliance était là. C'était fini. Ils ont testé. Ils ont vu que c'était du solide. Et maintenant, ils peuvent s'appuyer sur moi. Pendant mes cours, c'était la paix.
Est-ce que ça vous a aguerri pour ce que vous alliez vivre après en Centrafrique?
C'est une préparation en amont. Je savais pas ce que j'allais vivre en Centrafrique. Et moi, je vivais le quotidien. Le quotidien, c'était ces jeunes-là accompagnés. Le quotidien, c'était ces jeunes-là pour leur permettre de dire, vous avez une place dans la société. Parce que beaucoup les voyaient comme des délinquants, des dealers. Et beaucoup les voyaient comme des voleurs. Moi, je disais, non, vous pouvez réussir. Vous avez la capacité de faire des choses. Et pour changer le regard des gens ou d'autres jeunes sur eux, moi, j'organisais des sorties pendant les week-ends. On jouait ensemble. Pour qu'ils se sentent des jeunes. Ils ont aussi droit, malgré l'handicap, les difficultés reçues, de vivre avec d'autres jeunes. Et moi, je les brassais pour que les cultures se retrouvent. pour que les âges se retrouvent, pour que les rêves se retrouvent. Et c'est beau parfois de voir les jeunes qui gagnent et les jeunes qui regardent en médias.
Alors, on va en Centrafrique. Décembre 2012, c'est là effectivement où je disais, en introduction, vous allez entrer de plein pied dans votre destin. Là, décrivez-nous la situation en Centrafrique avec la Séléka, donc ces rebelles venus du Soudan, venus du Tchad, ces mercenaires plus exactement, globalement de confession musulmane, qui entrent dans le pays et c'est le début d'une guerre civile qui n'est pas achevée aujourd'hui.
Eh bien, on avait les échos comme quoi il y avait une rébellion avec plusieurs noms. Et on savait que ces gens se préparaient à descendre. Quand, on ne savait pas. Mais plus précisément, en décembre, le 10, il y avait le départ. Et quand ces rébellions avec les mercenaires que vous avez cités sont partis, très vite, dans les 5 jours, les nouvelles que nous avons eues nous alertaient comme quoi on s'en prenait à des prêtres, à des sœurs, à des pasteurs. Le pasteur Nicolas Guéret-Koyamé a téléphoné à l'imam et m'a téléphoné. Est-ce qu'on ne peut pas se voir? Ce que j'entends, est-ce que vous entendez? Ce que les gens me racontent, est-ce que vous êtes au courant? Nous nous sommes retrouvés. Nous avons dit, nous entendons la même chose. Mais notre histoire, c'est une histoire de la coexistence. C'est une histoire d'hospitalité. On n'a jamais eu de guerre de religion. Non. À la tête de ces mouvements, il n'y a pas des imams, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de prêtres. Nous devons prendre position. D'où notre plateforme. Et nous avons dit, comme un seul homme, non à la violence. Ce qui se passe, ce n'est pas une guerre religieuse. Jamais dans la Bible, jamais dans le Coran, nous avons autorisé nos fidèles à prendre les armes pour tuer les autres. Nous nous désolidarisons de cela. Et donc, nous avons commencé à le dire. Nous ne l'avons pas seulement dit. Nous nous sommes déplacés pour aller à l'intérieur, pour rencontrer les chefs rebelles. Quand ils ont commencé à conquérir les villes, pour les voir, pour les écouter et autres, pendant 9 mois, vous avez des gens. Nous sommes déjà dans la démarche que nous avons mise en place. En quoi ça consiste? Vous avez des gens pendant 9 mois qui ne se sont pas regardés, repliés sur eux. Leur cœur était gorgé de haine, de vengeance. Ils se suspectaient. Et nous, on arrive. Qu'est-ce qu'on fait, les 3 leaders? Le protestant rassemble les protestants. Le musulman rassemble les musulmans. Le catholique rassemble les catholiques. Nous le faisons parce que nous voulons créer un climat de confiance. Climat de confiance pour permettre à ce que ceux qui ont subi des choses parlent. Vous savez, c'est une thérapie collective que nous voulons faire. Les gens qui, vraiment, qui pensent que tout s'était effondré. Maintenant, ils se retrouvent entre, ils retrouvent la force et ils peuvent parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment s'est passé? Et ensuite, on leur dit, comment pouvons-nous en sortir? Parce que eux, ils doivent chercher des solutions, des propositions. C'est pas nous, avec les mallettes diplomatiques, pour leur dicter ce qu'il faut faire. Ils sont intelligents. Ils ont des propositions à faire. Nous ne faisons que orienter. Ça, c'était la première étape que nous faisons dans la méthode de médiation mise en place. La deuxième étape. Donc, au cœur de cette rencontre, nous, on demandait plutôt, dans chaque groupe, qu'il y ait un secrétaire. Pourquoi? Parce que, au début, les gens ont plusieurs récits. Vous avez 100 récits. Mais nous devons arriver à un récit communautaire. Récit de la communauté des catholiques. Récit de la communauté des musulmans. Récit de la communauté protestante. Et ça demande beaucoup d'efforts. Ce que vous avez considéré comme absolu est devenu relatif. et on réduit. Et quand la communauté a voté en disant « c'est notre récit, c'est beau », et une réunion est convoquée. Maintenant, la pression est tombée. Les gens peuvent maintenant aller rencontrer les autres en les voyant en face, en disant « voilà comment nous avons vu ce qui est arrivé et comment ça s'est déroulé et qu'est-ce que nous proposons ?» Ils peuvent le dire devant les autres maintenant. Chacun a son récit. Et le but aussi, c'est d'arriver à avoir un récit commun. C'est encore un grand challenge qu'on faisait avec les gens pour que, nous, en sortant, qu'il y ait des propositions. Parce que les gens, malgré tout ce qui arrive, ils ont encore la capacité, on appelle résilient, de rebondir. Et nous voulons les mobiliser.
Comment le conflit s'est-il confessionnalisé dès les premières heures?
Eh bien, beaucoup de mercenaires ne parlaient ni français ni sango. C'est une réalité. Je l'ai vécu. Et qu'est-ce qu'ils font? En parlant qu'arabe, ils s'appuient sur leurs co-religionnaires. On a des musulmans qui sont dans nos villes. Et quand ils partent chez leurs co-religionnaires, et on sait qu'ils sont allés poser des exactions et que le voisin les a accueillis, en général, on dit « l'ami de mon ami est mon ami ». Et maintenant, dans le sens inverse, on dit « l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi ». Or, ce n'est pas mon voisin puisqu'il a accueilli mon ennemi qui m'a tué, qui a violé et qui a détruit. Et maintenant, quand c'était vraiment, il m'a planté le couteau dans le dos. Maintenant, ça, ce n'est plus quelqu'un avec qui tu peux collaborer. Et les gens ont pensé que les musulmans tous étaient des Séléka. Et moi, j'ai dit non. Tous les musulmans ne sont pas Séléka. Moi, j'ai vu les musulmans qui ont souffert à Bambari. L'imam avait prié pour dire non, nous ne voulons pas que les rebelles rentrent. Mais il a été traîné dans la rue. À Bambari, il y avait quelqu'un qui était victime parce que un général avait amené ses cartons et il vendait les sucres et on a pensé que c'était lui qui était seulement le responsable. Il ne l'était pas. Il y a une complexité dans cette affaire et on allait vraiment de manière très vite en disant, eh bien, les Séléka, c'est les musulmans, les chrétiens, ce sont les anti-Baraka. Non, moi, j'ai dit non. Et parce que j'ai vu la complexité des choses et ces actes qu'il posait. L'imam l'avait dit, même aux musulmans, avant qu'ils n'arrivent sur Bangui. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en poussé les chrétiens à penser que c'est l'islam qui veut attaquer les christianismes. Oh, ce n'est pas ça. Il a dit avant. Parce qu'on voyait les prémices, les comportements des gens. Est-ce qu'ils utilisent ce canal-là pour nous mettre dos à dos? Et nous avons refusé et nous avons dit non. C'est pas une guerre religieuse, c'est plutôt une guerre pour de prédation, guerre pour avoir le pouvoir, autre chose, et nous nous sommes inscrits à fond. This country is at war with liberty. Sing with me. This country is at war with freedom. And it's a shame, man. And we can't tell our whites from the others. We can't tell our whites from the others. No, we're all blacks from the others. And everybody is just killing, killing.
Laurence Desjoigneaux, je me tourne vers vous. Donc, vous avez assisté à ces rencontres?
Alors oui, moi, j'ai suivi le cardinal dans une de ses tournées fin 2019. Voilà, qui était une tournée plutôt pastorale dans un diocèse. Mais j'ai pu assister à cette méthode dans des négociations entre deux milices qui bloquaient une route. Et donc j'ai pu voir aussi comment le cardinal avait rencontré tous les corps constitués petit à petit, les jeunes, les militaires, les fonctionnaires, les femmes, etc. Vraiment faire parler les gens, puisque c'était une ville où il y avait d'une part une partie du territoire où les musulmans n'avaient pas pu revenir parce que les chrétiens ne voulaient pas les réaccueillir. Voilà, c'était un peu après tous ces troubles-là. Et puis il y avait un peu plus loin une zone qui était plutôt tenue par des milices à coloration musulmane et voilà qui bloquait une route. Enfin, c'était une situation.
C'était dans quel lieu?
C'était dans le diocèse de Bossangoa.
D'accord.
Voilà. Et donc j'ai assisté donc à la réunion de deux milices dans une réunion, voilà, une réunion commune alors qu'ils s'étaient pas vus depuis 2 ans. donc deux milices qui avaient chacune plusieurs centaines d'hommes armés. Et j'ai pu voir comment, voilà, ils s'étaient mis à dialoguer, qu'ils s'étaient parlé sous la houlette du cardinal, que la parole s'était libérée. Et à la fin, voilà, le cardinal leur a demandé, voilà, est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts tous les deux? Et on avait presque l'impression d'adolescents, parce qu'il y en avait qui étaient très jeunes, ouais, qui levaient la main, comme ça, ils étaient prêts. Enfin, on avait presque l'impression d'être dans une salle de classe, c'était impressionnant. Et donc, ils s'étaient engagés à un premier pas. Voilà, c'était le début d'une négociation qui allait durer plus longtemps, mais ils s'étaient engagés à un premier pas, à savoir ouvrir une route sur laquelle il y avait des blocages et des exactions. Donc voilà, j'ai pu constater que cette méthode de dialogue était efficace. Oui.
Et vous avez organisé, Éminence, une marche pour la paix également.
Oui.
Une marche pour la paix, donc à Bangui, avec donc des chrétiens et des musulmans. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, vous dites beaucoup de femmes. Précisons-le, oui.
J'ai organisé cette marche pour la paix, la raison est simple.
C'était quelle année déjà ?
En 2015, oui. Parce que le Saint-Père, le pape, est venu chez nous. J'avais l'habitude de marcher, d'aller dans ce quartier, mais je vais aller seul, à mes risques et périls. À partir du moment où le pape est venu, le pape est allé au kilomètre 5. Il a rencontré les musulmans. Après son départ, j'ai posé la question aux chrétiens. Pourquoi restez-vous assis? Levons-nous. Suivez-moi. Nous allons marcher pour aller retrouver nos frères et sœurs musulmans.
Au PK5, c'est ça ?
Au PK5.
Oui, le quartier musulman où il y avait tous les réfugiés musulmans.
Et nous sommes allés pour les rencontrer, les deux groupes, les chrétiens et les musulmans. On a fait 100 mètres. Une chèvre est venue s'adjoindre à la marche. C'est historique. Vous pouvez demander aux gens de le quartier, de le kilomètre 5, et on vous dit, oui, ça s'est passé ainsi. Cette chèvre est venue, on voulait la chasser, elle est restée. Elle n'était pas attachée. Elle a marché avec nous. Je disais aux gens, cette bête marche pour les autres bêtes, parce que quand nous commençons nos guerres, les bêtes aussi souffrent, les bêtes se cachent, se terrent, et cette bête aussi veut lui lancer un pain en disant, nous voulons la paix. Eh bien, elle a marché. Quand nous nous sommes arrêtés, la bête s'est arrêtée. À la fin, elle est revenue avec nous dans le quartier pour disparaître. Authentique. Pour dire quoi? Pour dire que quand nous avons décidé de nous retrouver, quand nous avons décidé de marcher ensemble, les peurs se sont estompées. L'autre n'est plus l'ennemi, c'est un frère. Je suis à côté et on va vers la même direction et on est devenus maintenant tous des amis pour travailler pour la paix. Et pour moi, c'est important. Pour la petite histoire, ce jour-là, c'est l'imam qui me demande, est-ce que tu ne peux pas parler? Il y avait un chef des milices qui était là. À ce chef-là, qui était vraiment avec des hommes et des armes. J'ai dit oui, je suis disponible. On arrive, on m'amène sous un hangar. J'étais rentré avec les journalistes, mais il y avait des armes plantées partout. Et il y avait deux chaises. Les journalistes ont vu le décor, ils sont sortis. Je suis resté seul avec le chef. Je l'ai salué. Je lui ai dit bonjour. J'ai vu qu'il était crispé. Et ensuite, je lui ai dit, mais tu es un jeune homme, bel homme. Pourquoi ne souris-tu? Tu ne peux pas sourire. Il a commencé à sourire. Il dit, en toi, il y a une bonté. Si on ne te l'a pas dit, je te le dis, il y a une bonté. Ce n'est pas parce que tu poses des actes que les gens te disent que tu es mauvais, pourri. Non, tu as une bonté en toi. Et je te dis que tu dois faire éveiller, émerger cette bonté-là. Ce que tu fais, bien sûr, on a condamné, mais sors de cette violence-là pour autre chose. Eh bien, il m'a écouté. À la fin, il n'a rien dit. Il est sorti, ce jeune, pour m'amener quelqu'un qui, eux, ils devaient exécuter dans la soirée. Il me dit, vous êtes venus chez nous, nous parler. Ce monsieur, on devait l'exécuter, prenez-le, ramenez-le en vie. Donc, la marche a servi à sauver une vie déjà. Donc ce jour-là, pour moi, c'est un miracle. D'abord, la bête qui marche sans être attachée. Et vous avez là quelqu'un qui était destiné à être tué le soir et qu'on a libéré par miracle. Donc ça, je pense qu'il faut croire que la paix existe. Il faut aussi oser. Il faut aussi se rapprocher. Même l'ennemi, il a une force. Et tu as une force. Si vos cœurs se convertissent, changent, vous pouvez avancer ensemble.
Vous avez frôlé, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir frôlé la mort à plusieurs moments, face précisément à des rebelles extrêmement énervés, qui ne voulaient pas forcément discuter au début? Est-ce que vous avez eu le sentiment que là, la mort pouvait surgir?
Moi, je peux le dire que plusieurs fois, on a frôlé. J'ai frôlé. Quand je vous dis, je rentre et le monsieur, il est là, assis. C'est comme s'il m'attendait.
Ouais.
Et il a planté son décor avec les armes un peu partout. Tout est déjà planté. Quel est le message qui était là? Eh bien, c'était fort. Et moi, je rentre et je désamorce. Pas avec les armes, avec la parole. Je désamorce son cœur en lui parlant d'amour. En même temps, un jour, sur un autre chemin, eh bien, un jeune voulait en finir avec moi. Et je pars 4 jours, je reviens. C'est sur la route de Damara, eh bien, 75 kilomètres, tout le quartier, tout le village plutôt, a disparu parce qu'il avait dit, aujourd'hui, je veux éliminer l'archevêque de Bangui parce que je n'aime pas qu'on remette en cause mon autorité. Il avait volé les 2 motos de Caritas et moi, je lui demandais simplement de restituer. Il n'a pas voulu. On ne peut pas oser parler à un seigneur de guerre, à un chef. Eh bien, moi, j'ai osé. Alors, au retour, tout le silence, parce que les gens ne voulaient pas assister au meurtre. Et je suis rentré, j'ai demandé à le voir. On est parti le chercher, j'étais assis, il est arrivé avec 3 motos, avec des gens, 3 personnes, chaque moto, avec les armes. Ils ont commencé à vociférer, à crier, tirer en l'air. Aujourd'hui, ça va mal tourner. Il a parlé un peu, je lui ai dit simplement, « Bonjour, jeune homme. » Je m'appelle Dieudonné Zapaleng, archevêque de Bangui. Comment t'appelles-tu? Eh bien, vous voyez, il avait un ton très élevé. Moi, j'ai pris le ton plus bas pour lui parler simplement. Il dit, ben, si tu as quelque chose, viens me voir. Demande-moi qu'est-ce qu'il y a. C'est pas avec les armes et autres. Ils étaient déconcertés, pris de court. Et là, eh bien, il dit, non, aujourd'hui, je vais finir. Il a commencé à charger. Eh bien, je lui ai dit, j'ai déjà plus de 50 ans. Aujourd'hui, tu me tues, je veux aller voir Dieu que j'ai aimé et je pourrais rester là-bas. Je t'attends pour le grand tribunal, parce qu'il existe, le grand tribunal avec le bon Dieu. C'est un autre qui est venu l'encercler pour lui dire, non, ne tire pas. Et il l'a entraîné. Vous voyez, ça a des moments justes, parce qu'on ne connaît pas les humeurs, on ne connaît pas l'état d'âme, on ne connaît pas les situations. Mais il faut oser prendre des risques. Et la vie est faite ainsi.
L'avion du pape n'a pas encore atterri que sur l'itinéraire qu'il doit emprunter pour traverser la ville et se rendre à la présidence. Des dizaines de milliers de personnes se massent déjà.
Je suis sur l'avenue Boganda, je suis là, ça fait 2 heures de temps, pour attendre l'arrivée du pape que nous souhaitons tous. On ne veut plus de division, que nous acceptions nos frères et sœurs, que nous vivions ensemble comme avant. C'est simplement la paix que nous souhaitons.
Les heures passent et les fidèles convergent vers la cathédrale. Quelques privilégiés sont à l'intérieur et attendent comme Évrard.
Pour moi, ce jour-ci, ça restera gravé dans ma vie et dans ma mémoire.
Le survol de l'hélicoptère annonce l'arrivée du souverain pontife. Puis le voilà. Il ouvre ensuite la porte sainte et demande à Dieu la paix pour la Centrafrique.
En ce moment, on est en joie et on sent qu'on est libéré de toutes les attaques des ennemis. Donc je ne crains rien, la visite du pape, c'est une joie, c'est une libération pour notre pays.
Personne n'aura une mauvaise intention envers le pape. Le pape, il est venu de chez lui pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas mélanger la politique et la religion. Donc il n'y a personne pour faire quelque chose, quoi que ce soit, au pape François.
3 heures plus tard, François sort de la cathédrale, bénit les fidèles et leur demande s'ils vont prier pour lui. La clameur répond oui.
Alors, ce reportage signé par Pierre Pinto sur le pape à Bangui, cette visite historique, hein, les 29 et 30 novembre 2015, ça vous fait quoi de réentendre
Ça me donne la chair de poule. Ça me permet encore de remémorer ce qui s'était passé en 2015, j'ai encore en mémoire les visages et ce moment unique, miraculeux. Parce que pour moi, le processus de préparation a été difficile. Même la veille, on n'était pas sûr. Et quand il arrivait, on pouvait avoir les larmes. Oui, j'ai vu des ministres de ce pays, le président africain, qui ont pleuré. Parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Sa visite a libéré. Sa visite a rassuré. Sa visite a ouvert les portes du pardon, de la réconciliation, de l'estime, du respect. Sa visite nous a permis de nous rapprocher les uns les autres, vivre en coexistence. Oui, je vous ai dit, avant, on ne pouvait pas rentrer dans l'enclave de kilomètre 5. Le pape rentre, il sort avec les musulmans avec lui. Et maintenant, On a l'impression qu'on est tétanisé. La peur est partie d'elle-même. Et les gens maintenant sont libérés, peuvent communiquer entre eux. La paix est au bout de lèvres. Mais il faut la construire. Il faut la consolider. Il faut vraiment la préserver. C'est comme un œuf, hein, peut tomber, se casser. Et c'est ce challenge-là, ce défi-là que nous continuons encore aujourd'hui. Parce qu'il nous a mis sur la route. Et maintenant, c'est à nous de continuer.
Il y a, selon vous, Cardinal Zappalenga, un avant et un après, oui, de la visite du pape François à Bangui.
Il y a un avant et un après. Avant, où on était comme dans les ténèbres, dans l'obscurité, où on ne voyait pas, où on était esclave de la violence. Puisque une semaine avant, il y avait encore des violences de masse. On brûlait encore un incendie. On était vraiment pris dans ce cycle, on va dire, infernal, vicieux, hein, de violence. Et le pape arrive. Et tout à coup, eh bien, il y a un changement. Une histoire pour vous. Vous savez, quand avant la venue du pape, une fois, si quelqu'un osait, pour aller au kilomètre 5, pour tuer un musulman, on pouvait venger en tuant 10, 15, 20. Les jeunes, hein, je peux dire, qui se disaient autodéfense. On était dans le cycle de vengeance. Le pape vient, il y avait quelqu'un qui était tué. On m'appelle, j'arrive, ils me disent, l'homme de Dieu est venu. Il nous a parlé de la paix. Nous n'allons pas venger. Nous devons maintenant travailler pour la paix. J'ai trouvé que c'était beau, le plus beau cadeau, parce que ils ont entendu le message du pape qui nous demande de sortir de la violence. Et je pense que l'après-pape est là. Il est parti. Le message reste. Il doit demeurer dans notre cœur, doit nous construire, doit nous rassurer, doit nous permettre maintenant de travailler pour que la paix devienne réalité.
Alors aujourd'hui, où en êtes-vous précisément? Il y a eu les effets immédiats de la visite du pape François, mais c'était quand même en 2015. Vous, ce travail de dialogue, est-ce que ce travail précisément de dialogue continue? Est-ce que ce travail de médiation se poursuit?
Ce travail de médiation se poursuit. Dernièrement, oui, quand le corridor était bloqué, pasteur...
Le corridor, c'est-à-dire...
Ça veut dire, nous, le Centrafrique est un pays enclavé et nous dépendons essentiellement du Cameroun.
Du Cameroun, c'est ça.
Et tout arrive par le port de Douala et les camions prennent les conteneurs pour les amener à Bangui. Et si vous coupez l'axe de Douala, de la frontière, eh bien, Bangui est asphyxié. Et les rebelles le savaient. Et ils ont coupé. Pendant 2-3 mois, c'était difficile. Il y avait flambé des prix en ville. Eh bien, le pasteur, l'imam et moi, nous avons décidé de partir à la rencontre des jeunes qui étaient sur ces grandes villes qui ont bloqué pour les écouter, pour engager un dialogue. Un miracle. Avant d'arriver dans la ville de Boire, les jeunes, tous ont décidé de quitter avec armes et bagages. Parce qu'ils ont dit, les hommes de Dieu arrivent, nous ne voulons pas avoir affaire avec eux. Eh bien, nous les avons appelés au téléphone pour les écouter et leur parler à leur cœur en disant, oui, vous êtes partis, mais l'asphyxie ne concerne pas que les gens de Bangui, ici à Boire, parce que vos enfants ne vont plus à l'école, l'hôpital n'est plus assuré, il n'y a plus de magasins, tout est bloqué, ce sont vos frères et sœurs, vous êtes en train d'asphyxier, de grâce. Ne voyez pas très loin, ça c'est ici. Et nous avons parlé à leur cœur. Eh bien, quand les forces armées centrafricaines étaient venues, il n'y a pas eu de combat. Ils sont tous partis. Et je crois que nous avons économisé des vies. Nous sommes allés à Bangassou, tous les trois encore, ensemble, parce que les rebelles étaient arrivés de Bakouma, de Bria. Bakouma, c'est vers sud-est. Et sont passés par Bria, Bakouma, pour arriver à Bangassou. Quand l'armée rwandaise était arrivée, ils ont quitté, on leur a donné 72 heures pour quitter. Les rebelles ont quitté pour aller seulement s'installer à 17 kilomètres. Nous sommes allés à leur rencontre parce que nous savons qu'il y avait des violences, il y avait des tueries. Nous partons pour négocier la réduction de la violence. Nous avons marché 5 kilomètres à pied pour aller à leur rencontre. Quand nous arrivions, celui qui nous escorte nous dit d'attendre ici, il va voir le général. Il voit le général, nous autorise à venir, approche le général et nous dit, retournez, je ne veux pas vous voir, allez plus loin là-bas. Je demande à l'évêque, nous devons retourner et nous mettre sous l'arbre. Parce que quand vous allez à la recherche de la paix, ou de la réduction de la violence, enlevez vos étiquettes de cardinal, d'évêque ou de chef ou de journaliste. Faites-vous tout petit, revêtez-vous d'humilité. Sinon, si vous êtes sur le même ton, c'est lui qui a le monopole de la violence. C'est lui qui contrôle ici. Vous ne pouvez pas réussir. Donc, nous nous sommes fait tout petits pour commencer le dialogue avec lui. À chaque fois, il appelait son chef et il parlait. Et nous, nous cherchons à désarmer son cœur pour lui dire, hier, il y a eu 3 morts. Il y a quelqu'un qui est blessé. Et nous venons te demander pour que tu puisses arrêter. Et il a pris la position en disant, il va sanctionner ces jeunes. Je crois qu'après, nous allons peut-être économiser 2 ou 3 ou 4, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que c'est notre mission d'aller à la rencontre, parler à des cœurs.
De se faire tout petit, un cardinal qui se fait tout petit. Et pourtant, en 2016, lorsque vous avez été élevé au rang de cardinal, eh bien, c'était la liesse à Bangui, c'était la liesse en Centrafrique. Et vous dites même, c'était quasiment comme une coupe du monde de football que le pays avait gagnée.
Quand vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre. Les gens qui sont au stade ou les gens qui sont devant la télé et qui suivent les actions, ils sont mobilisés et ils sont pris dans l'émotion. Eh bien, moi, j'étais à 150 kilomètres de Bangui, dans la ville qui s'appelle Bossambélé, avec un évêque venu du Bénin, Diocèse d'Abomey, pour installer les prêtres béninois. Et on vient m'annoncer que je suis créé cardinal. Ça s'est passé ainsi, hein. Ça m'a pas été dit 15, 20 jours avant ou la veille, non. On vient m'annoncer sur le stade. Je disais aux gens, heureusement, je suis pas un cardiaque, je serais tombé. Et j'ai entendu ce message-là et je décide de rentrer à la radio. Votre radio a publié partout que je suis créé cardinal. Tout le monde était en liesse tout le long de la route et les arrivés à 12 kilomètres de la ville. Pour aller en ville, nous avons mis 4 heures. C'est pour vous dire, les gens qui chantent, c'est pourquoi je disais, pour eux, c'est comme un match de football, on a gagné. Et quand on gagne ici, en France, on voit les gens dans la rue, tout le monde converge.
Aux Champs-Élysées.
Champs-Élysées, on chante et tout. Mais pour les gens, c'était ça. Ils ont convergé vers la cathédrale. En chantant, ils ont attendu 4 heures avant qu'on arrive à la cathédrale. Inouï de voir ça. Il faut être là pour voir. Il faut dire que oui, c'est pas la théorie. Oui, quelque chose qui s'est passé. Au fait, les gens se sont reconnus. J'ai dit aux gens, moi, je suis pauvre. Ce pays est pauvre. Nous sommes pauvres. Dieu se penche sur le pauvre et vient l'appeler le pauvre à prendre place parmi les princes. Dieu appelle les pauvres pour qu'ils puissent dire ce que vivent les pauvres, la voix des sans voix. Dieu appelle les pauvres pour qu'ils puissent aussi apporter sa vision. Et c'est cela. Et moi, je crois que c'est important. Le geste posé par le pape à l'égard du peuple, je ne prends pas pour moi, ce n'est pas les honneurs pour moi. Eh bien, bien au contraire, c'est un appel pour un service.
Eh bien, ce sera la conclusion. Merci, Éminence. Merci, Cardinal Dieudonné Zapalinga, pour votre témoignage. Merci, Laurence, pour avoir effectivement accompagné le Cardinal dans l'écriture de ce livre. Je rappelle le titre. « Je suis venu vous apporter la paix, le combat d'un cardinal courage au cœur du chaos » et c'est publié chez Mediapol. Merci.
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 Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.